Le logo, c'est bleu.
Ouais, on y va. Donc, on va commencer, Bezrat Hashem, notre cours.
Il est tout par terre.
Notre cours sur la fête de Pessah. Le thème, c'est fil conducteur de la Haggadah. En fait, notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre 5 textes de la Haggadah. Vous allez voir, on a pris des textes qui sont classiques, que vous allez tout de suite identifier, de la Haggadah. Et sur chacun des cinq textes, on va essayer de se poser une question. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va montrer, et ça va, c'est très intéressant, comment sur les 5 questions qu'on a posées, il y aura une seule réponse qui va répondre à toutes les questions. Et en fait, on va découvrir au travers de ces questions, on aurait pu poser beaucoup plus que 5 questions, hein, parce que dans ce commentaire, Rabbi pose plus que 5 questions, il pose une dizaine de questions. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter que sur 5 questions, qui sont dans le document que nous avons devant nous. Et en fait, au travers de ces 5 questions, on va essayer de démontrer qu'il y a un fil conducteur dans la Haggadah. Un fil conducteur. Il y a un thème. C'est pas juste, on n'est pas juste venu raconter des histoires. Raconter des histoires en soi, c'est important. Mais il y a ici un fil conducteur. Alors peut-être avant de commencer dans les détails, je voudrais d'abord expliquer un point très important. La Haggadah a été composée par qui, tout d'abord? Parce qu'on va s'arrêter sur un texte de la Haggadah, il faut savoir, la Haggadah a été composée par qui?
Rachid.
Non, bien avant. À l'époque de Moïse, on ne lisait pas la Haggadah. À l'époque de Moïse, on avait une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Maintenant, tu peux la raconter en français, tu peux la raconter en hébreu, tu peux la raconter en latin, tu peux la raconter en allemand. C'est pas le problème. Ce qui compte, c'est que tu as raconté. Il n'y avait pas de texte pour raconter. On est d'accord? C'est seulement à l'époque de la Galoute, donc à l'époque de la Gemara, à la fin de l'époque de la Mishnah et le début de l'époque de la Gemara, donc au début de l'exil que nous vivons aujourd'hui, qui dure plus de 1970 ans, que les sages ont imposé un texte, ils ont créé un texte qui est le texte de la Haggadah. Le point que je vais vous expliquer est très important, puisque c'est ce qui va nous permettre de comprendre dans la suite du cours comment la Haggadah est un texte qui a été conçu pour des Juifs en exil. Et c'est pour ça que c'est un texte qui va nous parler spécifiquement en exil. D'accord? Ça, c'est une première introduction. Une deuxième introduction, c'est pourquoi nous lisons la Haggadah. À quoi ça sert? Pourquoi on lit la Haggadah? D'accord, le texte, il a été imposé.
Pour raconter l'histoire.
Alors.
Ouais, mais on peut le raconter en français, en anglais, en latin.
Bon, d'accord, c'est un expliqué, c'est un texte qu'ils ont fait. Mais pourquoi on le fait? Alors, on va lire ensemble deux références. Première référence, c'est une référence de Maïmonide. Et une deuxième référence, c'est une référence dans Sefer Achinuch. Alors, première référence, la référence numéro 1, Mitzvat Asé, donc c'est Maïmonide, qui nous dit, Mitzvat Asé Shel Torah, il est une mitzvah positive de la Torah, les saper benissim veniflaot, de raconter les miracles et les merveilles, chez Naasou la voté nous Mitzrayim, qui sont survenus à nos parents en Égypte, Beleil Chamisha Asar Benissan, la nuit du 15 Nissan. Donc nous avons une mitzvah la nuit du 15 Nissan, cette année, vendredi soir, de raconter les miracles et les merveilles que nos parents ont eus quand on était en Égypte. On a une mitzvah de raconter. Ce qui est intéressant, c'est que toute l'année aussi, on a une mitzvah, tous les jours, de mentionner la sortie d'Égypte. Une des phrases les plus connues qu'on a dans nos prières, c'est Zecher Litziat Mitzrayim. Si je traduis, donc ça on le dit dans le Kiddush, vendredi soir, on le dit dans les prières du matin, dans les prières du soir, tout à l'heure dans Arvit, si on sera minyan, dans la prière de Arvit, on dira aussi Zecher Litziat Mitzrayim, on parle d'Issé Mitzrayim. Et c'est d'ailleurs, le Sefer Achinuch nous dit, Mishorche Mitzvazo, le sens de cette mitzvah est, Ki hu yesod gadol ve'amut chazak betoratenu uvemunatenu. Que la sortie d'Égypte est un grand fondement et un pilier de notre Torah et croyance. Et c'est la raison pour laquelle nous mentionnons toujours dans nos prières et dans nos bénédictions, Zecher Litziat Mitzrayim, le souvenir de la sortie d'Égypte. Donc là, vous voyez, c'est intéressant. On voit tout de suite qu'il y a deux catégories de mitzvot quand on parle de la sortie d'Égypte. Il y a une mitzvah toute l'année de mentionner la sortie d'Égypte, ce qu'on fait tout le temps. Prière de Shacharit, prière d'Arvit, Kiddush, tout le temps Zecher Litziat Mitzrayim, tout le temps Zecher Litziat. Mais ça, c'est une mitzvah seulement de mentionner la sortie d'Égypte, de dire qu'un jour il y a eu, pas de raconter. Là, le sort du Seder, en plus de la mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte, on a une mitzvah de, j'ai presque envie de dire, de storytelling, hein, de raconter, storytelling, c'est-à-dire de raconter une histoire. On a une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, comment on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte? On raconte avec la Haggadah. Si vous traduisez le mot Haggadah, vous savez que ça veut dire Haggadah? Haggadah, récit. Donc c'est la Haggadah, c'est le texte du récit. On n'est pas, parce que pour mentionner la sortie d'Égypte, dès que j'ai dit trois mots, Zecher, Litziat, Mitzrayim, ça y est, j'ai mentionné. Nigmar, j'ai fini. Mais le soir du Seder, on a une mitzvah pas seulement de mentionner, qu'on aurait pu faire en trois mots. On a une mitzvah de raconter. Et vous savez comment c'est dans une histoire, quand on raconte une histoire? Tu peux raconter une histoire en 100 mots, tu peux raconter une histoire en 2 heures, tu peux raconter un film en 5 heures. Si le film est bien fait, tu peux raconter le film en 10 heures. Pas de problème. Et c'est pour ça que dans la Haggadah, on nous dit que tout celui, plus on raconte, mieux c'est. Et on nous raconte la fameuse histoire que vous connaissez, dans laquelle il y a eu des maîtres qui ont raconté toute la nuit. Parce que c'est une histoire. Donc une histoire, tu peux rentrer dans les détails, te rentrer dans les coulisses, c'est une histoire. Le soir du Seder, nous avons la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte.
On peut raconter une histoire en deux mots?
On peut raconter une histoire en quelques mots.
Ouais, bah oui.
Est-ce que, si je te demande par exemple, voilà, je vais faire un exemple. Si David, je te demande de nous raconter l'histoire du peuple juif en 30 mots, est-ce que tu es capable de te débrouiller?
En 30 mots, oui.
30 mots, tu peux.
J'ai
d'accord
pas
fils d'Abraham, esclave en Égypte, sorti d'Égypte.
Et l'école bonne.
D'accord temple construit, détruit, reconstruit, détruit, et nous sommes toujours là. Ouais, j'ai fait combien de mots là? J'ai fait moins de 30 mots.
Ouais, bon,
sauf que j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. L'histoire, tu peux tout raconter. Ils font des tests comme ça à l'école. Ils te disent, décrivez-moi ça en deux lignes.
Ouais.
Tu peux le faire.
Ouais, tu peux le faire. Puis après.
Mais t'as tué l'histoire.
C'est zéro. T'as deux ou t'as trois.
T'as tué l'histoire. Tu l'as tué l'histoire. Et tu comprends? C'est comme un repas. Un repas, tu peux dire, j'ai mangé, je veux remplir mon ventre.
Arrêtez
le repas qui a duré une heure, qui a duré deux heures.
Comment chérie serait là? Je te raconterai l'histoire en deux mots.
Non, justement. C'est faux. C'est faux. Bah, justement. Le soir du Seder, on a une mitzvah pas seulement de mentionner. On a une mitzvah de raconter. Et même lorsque ma chère viendra, on aura toujours la mitzvah de raconter. Pourquoi? Dit le Sefer HaChinuch, parce que la sortie d'Égypte, c'est un fondement de notre foi. Alors, toute l'année, on mentionne. Mais une fois par an, on raconte. À qui on raconte? On raconte à soi-même. Et surtout, aux enfants. Donc, pour essayer de comprendre ce récit de la Haggadah, d'accord? Ce récit de la Haggadah qui était composé, comme on l'a dit, après l'époque de la Mishnah, on va essayer de s'arrêter sur 5 postes clés de la Haggadah, et sur les 5 postes, on va poser des questions. Et encore une fois, on aura une réponse qui répond à toutes ces questions. La Haggadah commence, ma guide commence au He Lachma Anya, ou Ha Lachma Anya selon les coutumes. Puisque jusqu'au He Lachma Anya, C'est le kiddush. C'est le kiddush. Après, on casse la matzah en deux, on se lave les mains, etc. Mais la Haggadah n'a pas commencé. Le récit n'a pas commencé. Si vous prenez l'histoire de la Haggadah, le mot magid, il est écrit à quel endroit? Hey lachma ania. D'accord? C'est là qu'il est écrit. Ok. Alors, lisons le texte que vous allez lire au soir du Seder. C'est là que commence le récit. D'ailleurs, il y a même, c'est dans le monde Sfarad, il n'y en a qu'en Belgique à ce moment-là, le père, il vient de dehors, ou un invité, il vient de dehors avec le baluchon, etc. C'est à ce moment-là. C'est l'histoire. L'histoire, elle commence maintenant. Parce qu'il faut bien que l'enfant comprenne que le film commence maintenant. Avant, c'était les pubs. Le film commence à Hey Lachma Anya. Alors, comment commence l'histoire? Hey Lachma Anya, on dit, voici le pain de l'affliction, donc le pain de misère. Diachalou avatana be'ara de Mitzrayim, que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. Alors, vous avez remarqué que dans le texte ici, en français, surtout, il y a des mots qui sont soulignés. C'est pas par hasard, parce que c'est les mots sur lesquels on va s'arrêter. Ok? C'est les problèmes dans la phrase. Donc, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. Kol dirfin, yeteve yichol. Quiconque a faim, vienne et mange. Kol ditzrich, quiconque est dans le besoin, yeteve yifsar, qui vienne et participe au Seder de Pessah. Achata, acha. Cette année, nous sommes ici. À Paris, d'accord, ou même en Israël, mais ma chère n'est pas là. Les Shana Abba, l'année prochaine. Be'ara de Mitzrayim, d'Israël. En terre d'Israël. Achata Avdin. Cette année, nous sommes esclaves. Les Shana Abba, l'année prochaine, Bene Chorin, nous serons, Be'ezrat Hashem, des hommes libres. Alors, il y a plusieurs questions qu'on se pose sur ce texte. Apparemment, ce texte est une invitation aux pauvres. Sauf que c'est une invitation tardive, d'où le titre. Puisque si tu veux inviter les pauvres, tu les invites où ? À la synagogue. Là, t'es déjà assis à table, t'as déjà fait le kiddush, t'es attablé, t'es accoudé, t'es peut-être sur un pouf, d'accord ? Et tu dis, voici les pains de misère, les pauvres, venez ! Oui, ils vont venir.
Non, mais c'est une récitation publique, c'est pour ça qu'on dit ça.
Ah non, parce que oui, mais le Yalakhama, tu récites à quel moment ?
Non, peut-être que ici, la Haggadah, c'est une Haggadah d'un récit public et pas un récit privé.
Pas du tout. La Haggadah, ça a été instauré qu'une fois qu'on a fait kiddush, c'est là qu'on commence. Donc, d'où ma question. J'ai dit, mais je comprends pas. Si tu me dis que tu es là pour inviter les pauvres, à quel moment t'aurais dû le faire ?
Début.
À la synagogue. Ou à la limite, tu sais quoi ? Avant le kiddush. Ouais. Avant Kadesh. On dit, voilà, celui qui veut, qu'il entre, on ouvre les fenêtres, il y a là, pourquoi pas. Mais là, t'as fait le kiddush. T'as bu la première coupe. D'accord ? T'as servi la deuxième coupe, t'as coupé la matza, t'as fait la fête, quoi. T'es déjà installé. On dit, ah, voici le pain de misère, celui qui veut qu'il vienne. Mais c'est pas le moment. Donc il est clair qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas seulement une invitation des pauvres. On est d'accord ? Première question. Ça, c'est pas une question, c'est une remarque générale. Ensuite, question sur ce texte. On dit, voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. Quand mangeaient nos pères en terre d'Égypte. On a mangé quand, là, matin ?
À l'extérieur.
Attendez, non. Reprenons le texte. Pourquoi vous mangez la matza ?
Parce qu'on est sorti vite.
Et on a mangé quand ? Et donc, on n'avait pas le temps de laisser le pain monter. Et donc, on a pris la matza avec nous.
Oui, et on l'a mangé dehors.
Et donc, on l'a mangé dehors.
On n'a pas mangé en Égypte.
Donc, le texte ne tient pas la route.
Oui.
Voici le pain de misère qu'ont consommé nos pères en terre d'Égypte. Mais non !
En dehors.
Ils ont consommé en dehors d'Égypte. Alors, il y a même des commentateurs comme le Ibn Ezra, etc. Ils s'arrêtent sur la question et qui disent que les Juifs en Égypte ils mangeaient aussi de la matza. Sauf que ça n'a rien à voir avec nous.
Voilà.
La matza que je mange, c'est pas pour rappeler ce qu'ils mangeaient en Égypte. C'est pour rappeler ce qu'ils ont mangé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc que veut dire ce texte ? Voici le pain de l'affliction de seconde que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. Mais non, ils n'ont pas mangé dans le pays d'Égypte. Ils ont mangé ça en sortant du pays d'Égypte.
Non, mais peut-être qu'ils l'ont mangé aussi en Égypte, cela.
Je comprends.
Elle n'était pas montée, mais
pas un pain qui rappelle ce qu'ils ont mangé en Égypte. C'est un pain qui rappelle ce qu'ils ont mangé en sortant d'Égypte. Le soir du CDR, on est en train de célébrer la sortie d'Égypte. On n'est pas en train de raconter ce qu'ils mangeaient au menu l'année d'avant. C'est pas mes affaires. D'accord ? Première question. Deuxième question. Alors, c'est très bizarre. On est en train de célébrer la sortie d'Égypte. Et pourtant, on t'angoisse. On te dit, cette année on est encore là, l'année prochaine on sera là-bas. Je comprends pas. Tu es là pour parler de liberté ? Pourquoi tu m'angoisses maintenant ? Pourquoi tu me rappelles que je suis à Paris ? Donc à quoi il sert ce texte ? Le soir du CDR, on est censé se sentir libre. Donc si tu es censé se sentir libre, deux questions. Première question, pourquoi tu me parles de l'Égypte ? Pourquoi tu me dis, le pain qu'ils ont mangé en Égypte, ils n'ont pas mangé en Égypte ? Première question. Deuxième question, pourquoi tu me dis, cette année nous sommes ici ? Pourquoi tu veux me rappeler qu'on est en exil ? Pourquoi tu as besoin de dire ça ? Je sais que je suis ici. Pourquoi nous dire cette année, nous sommes encore là ? Ne me dis pas ça, je suis en train d'essayer de me sentir libre.
Alors ?
Donc ça, c'est une première question. Vous voyez, on vient de commencer la Haggadah. On ne comprend pas à qui on s'adresse. Ok ? Ensuite, prenons un deuxième texte. C'est mon David. Il ne voulait pas le ton. Hein ?
Non, moi j'ai acheté le ton, mais on m'a dit de ne pas le mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde.
Ben, ils étaient fatigués. Faire la boutique. Tu veux faire tu vas rater la suite.
Moi, je vois plus, j'ai mangé. On va manger.
On a amené le houmous.
Ok, on continue. Deuxième texte de la Haggadah. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, là pour résumer les questions, vous avez un titre du cours à droite, au-dessus et à droite. Première question, c'est est-ce que c'est une invitation tardive aux pauvres ? C'est quoi cette histoire ? Pourquoi tu parles de ça maintenant ? Pourquoi tu me parles de ce pain ? Pourquoi tu me dis qu'on l'a mangé en Égypte ? Pourquoi tu me dis qu'on en exil ? Pourquoi tu parles de ça ? Ok. Deuxième question. Deuxième texte de la Haggadah. Avadim Aïnou les pharaobes Mitzrayim. Vous connaissez ce texte ? Avadim Aïnou les pharaobes Mitzrayim. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce texte ? Lisons-le. Nous avons le texte.
Nous étions esclaves
du pharaon Mitzrayim en Égypte. Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham, et l'Éternel notre Dieu nous a fait sortir de là, Beyat Chazaka, Uvizroa Netuya. avec une main forte et un bras étendu. Bon, jusqu'ici, c'est clair.
Normal.
D'accord? Et si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, alors, alors, nous, nos enfants et nos petits-enfants, nous serions encore esclaves du pharaon en Égypte. Alors, c'est une phrase qui est forte, qui fait peut-être un gros titre du journal. Du style, si ils ne nous avaient pas libérés, on serait encore là-bas.
D'accord, mais on s'en
fout. Mais c'est faux. D'abord, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que pourquoi on est arrivé en Égypte? C'est Dieu qui avait annoncé à Abraham. Il a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? On a juste en dessous le texte dans la paracha l'Echira. Vayomer l'Abraham, Dieu a dit à Abraham, Ger yezar acha be'eretz lo lahem, ta postérité sera sur une terre étrangère, va avadum ve'inu otam, où elle sera asservie et opprimée, arba me'ot shana, pendant 400 ans. Donc dès le départ, c'était prévu pour un maximum de 400 ans. Donc c'est quoi ce délire qu'on raconte dans la Gada? On dit, si Dieu nous avait pas fait sortir,
on sera encore là-bas,
ou tu seras là-bas? Dès le départ, Dieu, il m'a mis dans une galère pour 400 ans, il a annoncé ces 400 ans. Donc, de toutes les façons, il était obligé de nous faire sortir.
Ouais.
Ça n'a rien de dire, si il nous avait pas fait sortir, de toutes les façons, on devait sortir. C'était prévu dès le départ pour 400 ans. Donc, pourquoi faire du drame? On est en train de dire, s'il n'a pas fait sortir, on serait du style, on remercie Dieu, il nous a pas fait sortir, parce que s'il n'a pas fait sortir, on sera encore là-bas. Mais ouais, dès le départ, il nous a amené là-bas pour 400 ans. Donc, on serait sorti de toutes les façons. Alors après, c'est vrai que, au lieu de sortir au bout de 210 ans, on serait sorti au bout de 400 ans. Bon, alors 400 ans. Ça fait combien de temps que c'est passé cette histoire? 3300 ans. Donc, est-ce qu'il y a lieu de dire dans la Gada aujourd'hui, nous serions encore esclaves? Non, c'est faux. On est d'accord?
Ouais.
On voyait encore une fois un texte qui, a priori, ne tient pas la route. Évidemment, mon but, c'est de montrer après qu'il y a un fil conducteur qui répond à toutes ces questions.
On n'aurait pas été un grand peuple si on était resté en Égypte.
Tu as raison.
Bah oui, si on était
tu as raison, mais c'est pas ce que dit le texte.
Oui, d'accord.
Mais le texte est précis. C'est un texte qui vient de la Mishnah.
En plus,
c'est très juste ce que tu dis, mais c'est pas ce que dit le texte. Le texte dit, nous serions encore esclaves du pharaon en Égypte. C'est faux. C'est faux. Ok? Deuxième question. Prenons maintenant un troisième texte. On raconte dans ce troisième texte, Mitechila, au début, Ovde Avodazara Ayu Avotenu. Au début, nos ancêtres étaient adorateurs d'idoles.
Idolâtres.
D'accord. Ve'archav, et maintenant, Kervanu Amakom, la Avodato. L'Éternel nous a rapprochés de son service. Chez Neymar, comme il est écrit, de l'autre côté du fleuve, vos ancêtres ont vécu, mais Olam, depuis toujours, Terach avi Avraham, va avi Nahor, Terach, le père de Avraham et le père de Nahor, va yavdu Elohim Acherim, et ils ont adoré des divinités étrangères. Alors ça, la question est très simple. Non, c'est pas seulement ça. D'abord, pourquoi tu m'en parles? Pourquoi tu me parles de Terach? Pourquoi tu me parles du grand-père d'Abraham? T'es rapport avec l'Égypte? Et deuxièmement, pourquoi tu dis, et maintenant, nos parents étaient idolâtres, et maintenant, l'Éternel nous a rapprochés de son service. C'est quand maintenant?
Quand on reçoit la Torah.
Non. Maintenant.
T'es sorti d'Égypte.
Maintenant. Ve'archav. C'est quand maintenant?
C'est maintenant.
C'est 5178.
Pourquoi Makom la Avodato, on traduit par l'Éternel?
Parce que Makom, c'est l'Éternel. Parce que c'est, on dit que l'Éternel, c'est lui qui occupe toute la place du monde. Donc on l'appelle Makom. Makom. Makom Baruch. Donc, je reprends. Archav en hébreu, ça veut dire quoi?
Maintenant.
L'instant
même.
Donc, on est en train de dire dans la Haggadah que maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés de lui. C'est faux. C'est pas maintenant. Ça fait 3300 ans déjà. Pourquoi tu le mot Archav? Troisième question. Quatrième question. On prend maintenant la référence numéro 5.
Oui, mais maintenant, on traduit dans l'histoire.
Ah ben non. Excuse-moi.
On était de l'autre côté du fleuve.
Moi, quand je raconte une histoire, je dis, et alors? Un terme qui remet et alors? Et alors? Et alors? Le terme qui est le plus souvent, c'est le mot et alors?
Vraiment?
Parce que et alors? Alors, ça veut dire alors! Quand tu dis maintenant, c'est maintenant! Maintenant, je vais vous raconter une histoire, c'est maintenant! C'est pas hier, c'est pas les 3300 ans! Donc, c'est. Donc,
on raconte l'histoire, d'accord?
Oui, je comprends! Mais dire une phrase en disant. C'est le père qui parle à son fils. N'oublions pas, c'est un père qui parle à son fils.
Mais t'es rival, à l'origine.
Écoute bien David ce qu'on dit. Écoute, regarde le texte.
À l'origine,
le temps que t'es pas parti préparer le. Écoute le texte. C'est un père qui raconte une histoire à son fils. Qui lui dit la chose suivante. Qui lui dit, au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Ça c'est vrai. Et maintenant, Dieu, c'est un présent, nous a rapprochés de son service. L'enfant va dire, papa, qu'est-ce qui s'est passé maintenant?
Ben, ça veut dire que c'est intemporel, cette histoire.
Donc voilà, donc c'est quoi cette histoire? Moi, je me mets à la place de l'enfant, je dis, papa, maintenant? Alors, papa va dire, non, je veux dire, dis-moi, il y a 3300 ans.
Non, c'est-à-dire que j'ai raconté à ma fille tout à l'heure. Je dis, on était esclaves en Égypte, maintenant on est libre.
Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce que dit le texte.
Non, on est au service d'Hachem.
C'est pas ce que regarde le texte.
Il y a
un texte devant toi en français.
Il y a marqué, on était
non, tu ne lis pas, tu ne lis pas le texte. Lis le texte.
Je connais pas ce texte.
Non, tu le connais pas. Ce que tu viens de dire, c'est pas le texte.
Deux
secondes. Lis le.
Et maintenant.
Mais c'est pas écrit maintenant nous sommes libres. Qu'est-ce qui est écrit maintenant?
Maintenant, Hachem nous a rapproché de son service.
Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il s'est passé quelque chose. C'est pas que nous sommes libres. Ça, c'est d'accord. Maintenant, Dieu nous a rapprochés de son service. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Dieu est venu te chercher en 5178, en 2018, et il t'a rapproché. T'as fait, va dire, ah bon, j'ai pas vu?
Non, j'ai pas vu.
Ah. Il va dire, maintenant, ça vient de se passer? Ah bon? Pourquoi tu l'y vas, Hachem? Oui, Ari.
Parce qu'il va prendre le Ramadan, il va demander à ce mot-là, c'est
mon. Effectivement, ça, on va voir la suite. C'est justement, Razak. C'est la référence numéro 5. Veisha Amda. Alors, Veisha Amda, la beauté nouvelle année. C'est un texte très connu de la Gada aussi, dans lequel on dit Veisha Amda, la beauté nouvelle année. Et c'est cela qui a maintenu nos pères et nous-mêmes. Chez lo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Car ce n'est pas un seul ennemi qui s'est levé contre nous pour nous anéantir. Et là, chez bechol dor vador, omdim alenu lechalotenu. Dans chaque génération, on se lève contre nous pour nous anéantir. Et Akadosh Baruch Hu, matzilenu miyadam. Et Akadosh Baruch Hu nous sauve de ses mains. Ça veut dire qu'on est en train, quelque part, d'un côté de nous victimiser, et d'un autre côté de nous rappeler que Dieu nous sauve. Qu'est-ce qu'on raconte à l'enfant? On lui dit, tu sais, mon fils, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis tout le temps. Là, voté nous, vela nous. Pour nos pères et pour nous. C'est pas une seule personne qui a voulu nous embêter. C'est tout le monde, dans toute la génération des gens qui veulent nous détruire, et Akadosh Baruch Hu nous sauve. Alors, en d'autres termes, on est en train de dire, t'as vu, Dieu il est gentil, il nous aide, il nous sauve, alors qu'on mérite pas, matzilenu miyadam, il nous sauve. Sauf qu'il y a un problème, que l'enfant, moi si j'étais à la place de j'aurais posé. Je dis, mais je comprends pas. Moi j'étais à l'école, j'ai appris la paracha Bereshit. Bereshit, le premier rachi, sur la droite de Bereshit. Regardez le premier rachi. Bereshit, bara, au commencement Dieu créa. Qu'est-ce que dit rachi? Bereshit, bishvil à Torah, Dieu créa le monde pour la Torah, ou bishvil Israël, et pour Israël, shenikriu ou reshit, qui sont appelés commencement. Ça veut dire que Dieu, il a créé le monde pour nous. Donc l'enfant, quelque part, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi on doit toujours être victimisé et de dire, regarde, Dieu nous aimait comme ça, et on allait nous détruire, et après il nous a sauvés. L'enfant, il dit, mais je comprends pas. Dieu nous doit, ça, il a créé le monde pour nous.
C'est ça l'ordre de la création. Bishvil à Torah.
Oui.
Ou Bishvil Israël.
Voilà.
Donc le but du monde, c'est la Torah, et après
Israël. Non, pour les deux en même temps. Pour la Torah, pour Israël. Donc l'enfant, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi on a l'air de dire que tout le monde veut nous détruire, et Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous sauve. D'accord?
Peut-être que la Torah a été faite pour nous, mais si on l'avait refusée, est-ce qu'il l'aurait laissée aux autres?
Non, il y a deux choses. Dieu, il a créé le monde pour la Torah et pour le peuple juif. C'est deux buts distincts. Les deux sont appelés commencement.
Donc, il savait qu'on allait
refuser. Bereshit, ça veut dire, ça n'a rien à voir. Je viens de dire, ça n'a rien à voir. Bereshit, ça veut dire bet reshit. Double commencement. Ça veut dire que si tu cherches le point de départ du monde, Dieu dit, il n'y a pas un point, il y en a deux. Et les deux sont un but en soi, la Torah et Israël.
Ça confirme parce que quand Moshe l'a dit, efface-moi.
Oui, voilà. Exactement, on a fait un compte dessus.
Si on n'était pas là, il aurait fait un autre peuple juif.
J'en sais rien ce qu'il aurait fait. En tout cas, la finalité d'un juif, même s'il n'a pas accompli la Torah, il a une finalité déjà. Donc je reviens à la question. On a le quatrième texte, Veisha Amda. On rappelle les épreuves d'Israël. Et on est là constamment en train de dire, t'as vu, Dieu il est gentil, il nous a sauvés des mécréants. Mais, quelque part, est-ce que c'est pas normal que Dieu nous sauve des mécréants? Nous, on n'a rien demandé, nous. C'est pas qu'on est des gangsters, que Dieu nous a envoyé un hélicoptère pour nous sauver. Moi, j'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce qu'il veut un juif, finalement? Il veut la paix, il veut qu'on laisse tranquille. Alors, prenez-le en train de nous victimiser constamment, et de dire, t'as vu, on allait mourir, on était là, on allait partir, Dieu nous a sauvés. C'est normal que tu nous sauves. Quel père n'aurait pas sauvé son fils? D'autant plus qu'il a dit qu'il a créé le monde pour nous. D'autant plus qu'on n'a rien demandé, nous. On n'est pas des mécréants. T'as un mécréant qui vient t'embêter. T'as rien demandé. T'es pas un terroriste. T'es pas venu faire sauter une bombe. T'as rien fait du tout. On vient t'embêter. C'est pas normal que Dieu t'aide. Il y a besoin de dire, t'as vu, Dieu il est gentil, il nous aide. C'est normal que Dieu nous aide. Ça, si vous voulez, je me mets là. Je sais que c'est des questions que vous ne vous posez pas.
Non.
Mais j'essaye de me mettre dans la tête de l'enfant.
Bah, c'est comme un nouveau-né.
L'enfant, il comprend pas. Il comprend pas. Il dit, mais c'est quoi,
il est juif.
Il dit, c'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Ils sont tout le temps en train de dire, t'as vu, bah, il nous a aidé, on allait mourir, il nous a aidé. Pourquoi tout ça? Enfin, dernier paragraphe de l'Agada, après on va arriver au développement, c'est Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu. C'est le fameux Da'ayenu, Da'ayenu, d'accord? Vous connaissez, tout le monde connaît. C'est des phrases clés de l'Agada que vous retrouvez dans toute l'Agadote. Ashkena, Sephara, toute l'Agadote et ses textes. Alors qu'est-ce qu'on lit dans la référence numéro 6, cinquième texte? Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu.
Il y a une différence entre Ashkenaz et Sephara sur l'Agada?
Un petit peu, une petite différence, mais bon, la structure est la même. Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu. Nous disons dans ce texte, combien de faveurs bienfaisantes l'omniprésent a déversé sur nous. Ilu Otsianu Mimitsraim. Si Dieu nous avait fait sortir d'Égypte, Velo Asavam chez Fatim, mais qu'il n'avait pas porté des jugements contre eux, contre les Égyptiens, Dayenu. Cela nous aurait suffi. Etc. Après, on fait une liste de 15. Et on dit, Ilu Irnissanu l'Eret Israël. Si Dieu nous avait fait entrer en Eret Israël, Velo Vanalanu et Betabechira, et qu'il nous avait pas construit le Bet Amikdash, Dayenu. Cela nous aurait suffi. À plus forte raison que nous devons être reconnaissants à Dieu pour les bienfaits doublés et redoublés qu'il a fait envers nous. Shotianu Mitzrayim, qui nous a fait sortir d'Égypte. Vasavahem Shefatim, et qu'en plus, envers les Égyptiens, il a porté le jugement contre eux, et la liste des quinze choses. Vichnissanu l'Eret Israël, nous a fait rentrer en terre d'Israël. Uvana l'Anuot Bet Abechira, et il a construit pour nous la maison d'élection, donc le Bet Amikdash, les raper l'anou alcool avonotenu, pour pardonner sur toutes nos fautes. Alors c'est intéressant. Vous avez remarqué comment le Bet Amikdash est appelé ici?
Bet
Abechira. En français ça donne quoi?
Bénédiction.
Maison, non, c'est pas ce qui est écrit. Maison.
Bet-a-bechira.
Maison d'élection.
Le Saint-Temple.
Maison d'élection. Pourquoi tu appelles Bet Amikdash? Comment l'enfant connaît le Bet Amikdash? Comment il appelle Bet Amikdash?
Bet
Amikdash. Ou bien Mikdash, ou Mishkan peut-être. Bet Abechira, c'est un terme qui n'est pas connu.
Non.
Pourquoi on emploie le terme ici? Et vous voyez deux fois, Velo Vanalanot Bet Abechira, ou Vanalanot Bet Abechira. Ça veut dire qu'à chaque fois, le terme qu'on utilise, c'est quoi? Bet Abechira. La maison d'élection. Pourquoi on utilise ce terme? Et en plus, on dit, Dieu nous a construit le temple. Pourquoi il nous a construit le temple? Pour pardonner sur toutes nos fautes. C'est pour ça que Dieu a construit le temple. C'est pas ce qui est écrit. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti ve'toram. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. C'est-à-dire que le but du sanctuaire, c'est quoi? C'est que Dieu réside parmi nous. Alors qu'est-ce qu'on raconte? On dit, ça veut dire dans toute la liste des bienfaits, on dit enfin, il nous a construit un temple pour pardonner sur nos fautes. Qui t'a parlé de fautes maintenant? Pourquoi tu parles des fautes maintenant? D'accord. Donc les questions que je vais nous poser, si vous les prenez comme ça, sont a priori des questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pour vous, tu dis, on a pris cinq questions qui n'ont cinq paragraphes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et on a posé des questions qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Ce qu'on va développer dans le cours, on va montrer qu'en vérité, donc je résume, on va d'abord résumer les cinq questions, d'accord? En vérité, ces cinq questions sont liées à un même point, d'accord? Donc, les cinq questions que nous avons eues. Première question, pourquoi on est en train de rappeler qu'on est en terre d'Égypte, pourquoi on est en train de rappeler que la maths était mangée en terre d'Égypte et qu'on est esclave? Première question. Deuxième question qu'on a posée, pourquoi on est en train de dire que si Dieu nous avait pas été gentil avec nous, nous serions encore esclaves, alors c'est limité à 400 ans. Troisième question, pourquoi on dit que maintenant Dieu nous a approchés de son service. Troisième question, Veïche Hamda, pourquoi constamment être victimisé et de dire Dieu nous a sauvé in extremis? Est-ce que c'est pas normal que Dieu nous sauve? C'est une question sérieuse que je pose. Et enfin, dernière question, pourquoi le Bet Amikdash t'appelait maison d'élection et surtout pourquoi on définit le Bet Amikdash comme une maison de pardon? Quel rapport que le pardon des fautes maintenant?
Une fonction, ouais.
Pourquoi tu parles des fautes maintenant? Quel rapport des fautes? T'es aussi sûr du CDR. Qu'est-ce que tu parles des fautes maintenant? Quel rapport avec le fautes?
Ouais.
On tourne la page. Alors, en fait, on va faire comme chez les juifs. Vous savez comment on fait chez les juifs? Pour répondre à une question, on répond par une autre question. En fait, l'enfant, depuis le début du CDR, est dérangé par trois questions. Trois questions qui le taraudent, ou qui devraient le tarauder en tout cas. Tu le déranges. D'accord.
Non.
Ça va, David? Trois questions qui le dérangent, que l'enfant se pose aujourd'hui, en 2018. Écoutez bien. trois questions que l'enfant se pose, mais c'est pas des questions sur la Agada. C'est-à-dire qu'avant même que l'enfant, avant même qu'on a commencé la Agada, l'enfant dans sa tête, il se pose trois questions. Alors, là, je les donne dans des termes spécifiques, mais ça peut être dans d'autres termes. Je suis sûr que quand vous étiez petit, vous vous êtes posé cette question.
Pourquoi la médecin ?
Attendez.
D'où je viens,
Première question. Référence numéro 7.
Qu'est-ce que je fais là ?
Madoua loaita ageulat deitzet mitzrin geulatolam. L'enfant, il comprend pas qu'est-ce qu'on fait là.
Ah.
Il dit, je comprends pas.
C'est pas, on est sorti, on est libre.
Si tu me dis qu'on est sorti d'Égypte et qu'on est libre, ah, pourquoi on est encore en galère ?
C'est lourd, quoi.
Je comprends pas. Ça veut dire, moi, l'enfant, il a l'habitude que quand j'ai un contrôle, je l'ai eu, je l'ai pas eu, Il y a une date, on l'a eu, c'est terminé.
Le bac, ça y est, c'est
d'accord, passé. C'est passé. Là, t'as l'impression que 3000 renoms te parlent encore. Ah oui, mais il y a une épreuve, peut-être, il a eu, il a pas eu, il est repassé, il est pas repassé.
Hein? T'es gamin de faire
ça. Alors, mais l'enfant, il comprend pas. L'enfant, il dit, je comprends pas. Ça, c'est une question que l'enfant a dans sa tête. Il comprend pas, l'enfant, il comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ce délire? Alors encore une fois, c'est des questions que peut-être quand on a dit, on se pose plus. Parce que on a appris à accepter des choses. Mais l'enfant, lui, se pose cette question. Il dit, moi, on me dit qu'on était esclaves et que Dieu nous a libérés. Pour moi, libérer, c'est qu'on est tranquille. Après, il y a des attentats. Après, il y a des problèmes. Pourquoi quand je sors dehors dans la rue, je dois me poser la question, est-ce que je sors avec la kippa ou sans la kippa? Je vais la mettre. Mais pourquoi je dois me poser des questions comme ça? Pourquoi même quand je vais en Israël, j'ai peur qu'on me plante très échelle un couteau dans le dos? Pourquoi il y a ça? L'enfant, il comprend pas ça. C'est une vraie question qui se pose. Première question que l'enfant se pose. Deuxième question que l'enfant se pose, l'enfant était à l'école. Et quand il était à l'école, il a appris que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, deuxième question, oui. Des rouges gadol, avec une grande richesse. On dit qu'ils ont vidé l'Égypte. Ouais. Cependant, l'enfant, il voit qu'autour de la table, il y a des pauvres.
C'est la cause à effet, alors.
Non, mais attendez, il voit autour de la table, il y a des pauvres. Donc il comprend que, même si on est sorti riche, concrètement, il y a toujours des pauvres autour de la table.
Ouais.
Donc, le problème n'a pas été réglé. Donc, l'enfant dit, finalement, à quoi ça sert si on est sorti avec une grande richesse, si tout compte fait, on est dans un système capitaliste, enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais on est dans un système dans lequel, autour de la table, il y a des invités qui sont pauvres. Donc, en d'autres termes, la question qui se pose l'enfant, c'est pourquoi ces invités sont pauvres? Pourquoi ils sont pauvres? Si tu me dis qu'on est sorti avec la richesse et que le problème est réglé, c'est la même question que la première, mais c'est un peu différent. Pourquoi il est pauvre? Pourquoi il est pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est pauvre? Alors, ça, c'est des questions que nous, on ne pose plus quand on est adulte. Mais l'enfant, il se pose une question. Il dit, pourquoi il est pauvre? Deuxième question. Troisième question. L'enfant, il était à l'école, il a appris que lorsqu'il y a eu la plaie de Rocher, la plaie des premiers-nés, la plaie, pardon, de l'obscurité, la plaie de l'obscurité, tous les méchants, tous ceux qui voulaient, tous les impies, tous ceux qui ne voulaient pas sortir, sont morts.
Tu veux dire tous les juifs?
Les juifs qui ne voulaient pas sortir, sont morts. Et pourtant, l'enfant, il voit dans sa agada avec des dessins, etc., on lui dit qu'autour de la table, il y a quatre enfants. Il y en a un, c'est un rachat. Alors l'enfant, il comprend pas, il dit, mais d'où il sort celui-là?
D'où il sort?
Autour de la table, il y a un rachat. D'où il sort ce rachat?
Oui, il y a rachat de cuir, l'enfant.
Ah oui, c'est ça. Non, mais quand je dis l'enfant, vous savez, l'enfant, c'est l'enfant qui est en nous aussi.
Oui, oui.
Parce que, vous savez que même si on n'a pas, même s'il n'y a pas d'enfant à la table du CDR, on se pose nous-mêmes la question. Parce que le soir du CDR, tout est avec un dialogue. On pose des questions, on répond.
Est-ce que vraiment, on se pose des questions?
Mais c'est le but. Tout le son des élèves est imaginé pour se poser des questions. C'est pas pour manger les msouki.
Voilà,
c'est pas tourner la page pour manger les msouki.
Oui, exactement. Tu l'as.
Bah oui, attends. T'es là pour poser des questions, t'es pas là pour interroger.
Ma mère m'a passé une après-midi à couper les légumes, tu crois quoi? J'ai rendez-vous avec mes soeurs pour
une semaine, oui.
J'ai une après-midi entière.
Yenaï m'a dit, j'attends une chose dans la Gada, c'est quand un endroit il y a écrit maintenant on mange.
Ah, c'est bon, maintenant on sera d'horaire.
Il y a marqué dans la Gada.
Oui, il tourne la page. Attends, il y a marqué. Quoi que c'est écrit?
Il y a marqué les femmes se lèvent et mettent la table.
C'est qui comme ça?
Bémet, c'est la seule question que je me suis posée jusqu'à aujourd'hui.
Quand on mange?
Mais oui, c'est la vérité. Attends, quand on fait la Gada, c'est dur des
points. Pour ça, ce gosse, il est très intelligent.
Et il y a 130.
Si tu veux, les questions que l'enfant pose, c'est une question existentielle qu'un enfant se pose. Alors, où il va se les poser quand il a 10 ans? Où il va se les poser quand il est à l'école? Où il va se les poser quand il est à la fac? Mais ces questions, il va se les poser un jour. Parce que c'est des questions fondamentales, ça. C'est, en fait, ce qui dérange un enfant, et peut-être même un jeune aussi, c'est pour ça que les jeunes aussi ont des fois du mal, c'est que ce qui dérange un jeune, c'est les incohérences. C'est incohérent. Je ne comprends pas. Trois choses, c'est incohérent. Tu me dis qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas. Tu me dis qu'on est sorti riche alors qu'on ne l'est pas. Il y a des pauvres.
On dit qu'on n'est pas libre aujourd'hui.
On n'est pas dans le
cas d'autre. C'est clair, c'est pas une liberté. Non, c'est pas une liberté ce qu'on veut.
On a quand même une liberté quand même.
Ah ben non, on est encore en exil. D'accord.
Les gens en Israël sont libres.
Bah pas du tout. Ma chère, t'es pas là.
Libre de quoi,
hein? Libre de quoi? Libre de qui? Libre de quoi?
Libre de
on doit rendre compte tout le temps. On doit se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas. Ouais. On doit se poser la question que si on envoie un missile, on a un autre missile qui est capable de l'exploser. Et qu'on est content qu'on a un missile. C'est pas ma chère, ça, c'est quoi ça?
Oui.
C'est pas. C'est-à-dire qu'on. On
en tel... sursis.
Oui, on est en sursis. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, donc on va se débrouiller. On va... Tu m'envoies un point, je t'envoie un point. Mais moi, je veux pas de point, moi, je veux rien du tout. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux qu'on me laisse tranquille. Et ça, on n'y est pas encore. On est d'accord, bon, on n'y est pas. On est très loin de ça.
On n'est pas niveau.
Donc l'enfant a trois questions. L'enfant a trois questions. D'accord. Trois questions que l'enfant a. Trois incohérences. Première incohérence. Si la Géoula, la libération d'Égypte était une libération éternelle, pourquoi on est encore là? Deuxième question. Si on est sorti riche et qu'apparemment on a pris toute la fortune du monde, pourquoi il y a des pauvres? Et troisième question. Comment il y a des Réchaïm qui ont débarqué ici? Pourquoi il y a un rachat ici? Pourquoi on n'est pas tous des types bien? Ça, c'est les questions fondamentales que l'enfant pose. Pourquoi on n'est pas tous des types bien? Pourquoi il y a des pauvres? Et pourquoi on n'est pas libre? Alors voilà comment on va répondre à la question de l'enfant. On va répondre à la question à l'enfant depuis le Hel Armanien. Le Hel Armanien est le début de la réponse à la question de l'enfant. C'est l'élément de réponse qui va répondre à sa question. Référence numéro 8. Et là, vous allez voir que ça va vous changer complètement la façon de voir le CDR. Mais complètement. Amatza, Sheachlou, Avotenu, Lachar, Yitzem et Mitzrayim. La matza que nos ancêtres consommèrent après être sortis d'Égypte. Nikret est appelé De Achlou Avatana Be'ar'a de Mitzrayim. On sait très bien que cette matza, techniquement, elle a été mangée en dehors d'Égypte. Et pourtant, comment on l'appelle? Voici le pain de misère qu'ont mangé nos parents en terre d'Égypte. Pourquoi? Écoutez bien. Pourtant, on l'a pas mangé en terre d'Égypte. Pourquoi? Les Hadgish, pour insister sur le fait, Shofen Ayitia Mitzrayim Loya Bishlumut, que la sortie d'Égypte était incomplète. J'explique, on va expliquer, c'est un grand ridouche. Où venait Israël mitzat atzmam, nisharu bemitzraim. Les Juifs sont quelque part restés encore en Égypte. Physiquement,
ils sont sortis.
Leur corps est peut-être sorti, mais leur tête était encore en terre d'Égypte. Je continue, ça va aller plus, beaucoup plus loin que ça. Et donc, Metsiutam shel ani benenu, le fait qu'il y ait des pauvres parmi nous. Vechenze shanu shruim begalut, et le fait qu'aujourd'hui, 3300 ans plus tard, on est encore en exil. Em totsa'a mizeh, c'est un dérivé du fait shebnei Israël lo yatzu az legamrei mishuv Mitzrayim. En fait, il y a 3300 ans, on n'est pas sorti entièrement de l'Égypte, de l'assassinat de l'Égypte.
Alors on vit en contradiction avec le verset de la Torah.
Attendez, doucement. Il y a un Mahamar du Rabbi Yosef Yitzchak qui explique comme ça juste en dessous. Qui dit, Geoulat Mitzrayim, donc c'est la question de Michael, dans ce cas-là, à quoi ça sert tout ça?
Non, la question, moi, ma question, c'est ici.
Oui.
On a un truc, on nous dit que Dieu, il a dit qu'on resterait, quoi qu'il arrive,
très,
il nous libère.
Très bien, alors, deux secondes, je réponds.
Il libère, c'est pas genre à moitié.
Je réponds à la question. Concrètement, ça a changé quoi dans ce cas-là, si tu dis qu'on n'est pas sorti? Regardez ce que dit Rabbi Yosef Yitzchak, référence numéro 8. Il dit, Geoulat Mitzrayim, Patra et Adderer Vatsinan le Geoula. La libération d'Égypte ouvrit la voie et le conduit pour la Geoula. Ça veut dire que le fait qu'on est sorti d'Égypte, ça a ouvert le conduit. C'est comme un robinet. Maintenant, dire qu'on est complètement sorti, on n'est pas sorti. On est encore en Égypte aujourd'hui. On est peut-être physiquement sorti d'un pays qui s'appelle l'Égypte. Mais en vérité, on n'est pas sorti d'Égypte. En vérité, on est encore en terre d'Égypte. Ça veut dire que depuis la sortie d'Égypte jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la Géoula, Netunim Anub Emcher Echad Shel Yitzia Mitzrayim, on est dans une continuité de la sortie d'Égypte. Ça, c'est un très grand chidouche. Ça veut dire qu'en vérité, on est toujours en train de sortir d'Égypte. Aujourd'hui, 3300 ans plus tard, on est encore en train d'essayer de sortir un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. On est en train de se débarrasser de l'Égypte qui est en nous, de l'Égypte qui est dans notre tête. Alors, c'est la raison pour laquelle, on est en train de dire, avec ça, on va comprendre toute la réponse à toutes nos questions. Comment on va répondre à toutes les questions? On va prendre la référence numéro 9. Il y a on va lire directement l'écouter Sirot. Tochen yen agalut. À quoi sert l'exil?
Excuse-moi, finalement, on est libre de quoi, là?
Ah, très bien. C'est ce qu'on a dit. C'est que ce qui a changé dans la Géoula, c'est quoi? C'est que Dieu a ouvert le conduit. En vérité, on n'était pas prêt à sortir. On n'était pas prêt du tout à sortir. Et même quand on est sorti physiquement, on n'est pas sorti. Vous savez, ils appellent ça hein, le syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est quoi le syndrome de Stockholm ? Il y a des gens qui se complaisent dans leur prison. Et que même lorsque tu les sors de prison physiquement, dans la tête, ils sont encore dans la prison. Et qu'ils veulent retourner en prison.
On ne peut pas imaginer l'extérieur.
Non, c'est que ça veut dire que tu as un problème, c'est que tu peux sortir une personne de prison, mais sortir la prison de lui, c'est plus compliqué. Ça, c'est un mot du Rabbi de Kotsk. Le Rabbi de Kotsk, il dit, faire sortir les Juifs d'Égypte, c'est facile, mais faire sortir l'Égypte des Juifs, c'est plus compliqué. Et ça, on est encore dedans. On n'est pas sorti entièrement. C'est Mashiach.
Alors, c'est quoi c'est alors, le sens attends, de l'Echlecha?
Très bien. Le sens de l'Echlecha, c'est que Dieu, en vérité, il a ouvert le conduit. Il a ouvert le conduit, ça veut dire qu'il a commencé la Geoula. Il a dit, voilà, je vous ouvre le conduit, je vous ouvre la voie. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on a fait le chemin? Non, on n'a pas fait le chemin encore. On est en train de faire le chemin. On va développer. On va lire la référence numéro 9. Après, je vais expliquer comment ça répond à toutes les questions. Il dit, Tochanya Nagalut. Reprenons l'histoire. À quoi sert l'exil? Mirouk vekabarat chet et sadat shigram silu kashrina me'aretz. L'objectif de l'exil est nettoyer et pardonner la faute de la connaissance à cause de laquelle la shrina, la présence divine, quitta la terre. Arishon sheitri la chazir ou la mishir et la shrina ayavram avinu. Le premier a enclenché la redescente de la shrina sur la terre. Vous savez que la shrina est montée à cause des fautes d'Adam, etc. Et le premier qui a enclenché la descente, c'est Avram. Et regardez bien la suite. Velachen, c'est pour cela. L'odafka nemra avtacha shishlemut b'orat yalei galut mitzrayim. Ilu zachu, aita galut mitzrayim agalut acharona agalut eichida befoel. Befoel, galut mitzrayim lo valaviru b'shlemut. Mitzad ilet adin, ilu lotzi akadosh baruch hu lo yemakom letzi legula. Je vais expliquer, c'est très puissant ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Il dit, reprenons l'histoire depuis le début de la création du monde. On est d'accord? Dieu a créé le monde. Le monde était parfait. Parfait. Adam a fauté. Lorsque Adam faute, qu'est-ce qui se passe? La Shrina quitte ce monde. Elle quitte ce monde, elle va dans le premier ciel. Lorsque Caïn va tuer son frère Révèle, la Shrina va aller du premier ciel au deuxième. Etc, etc, etc. Jusqu'à qu'on arrive à l'époque d'Abraham. À l'époque d'Abraham, la Shrina est au niveau 7. C'est-à-dire qu'elle est le plus loin possible de la terre. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, Avraham a enclenché la descente. Avraham, c'est le premier qui a dit, on va inverser la courbe, et donc, on va commencer à faire descendre un petit peu du tout sur cette terre. C'est pour ça que, qu'est-ce que faisait Avraham toute la journée? Il parlait aux gens de Dieu. Maintenant, les gens, ils leur parlaient de Dieu, ils leur parlaient, ça rentrait dans leur tête 5 minutes, 10 minutes, un jour, deux jours, ça partait. Parce que Dieu était encore très très loin de la terre.
Pas comme nous, hein.
Dieu était très 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 loin de la terre. Il était en haut. Mais Avraham, il a enclenché la descente. Alors regardez bien. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu dit à Avraham, il lui dit, écoute, comme tu as enclenché la descente et que tu m'as fait plaisir, et que tu as montré qu'on peut faire avancer les choses, et que, parce que ça, pendant plusieurs générations, ça avait stagné au niveau 7. Parce qu'il faut, il faut inverser la courbe. Dieu a dit à Avraham, comme toi tu m'as fait plaisir, alors je vais te donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça va continuer à descendre comme ça. Il y aura d'autres chefs qui vont venir après toi, et qui vont faire descendre. Toi, tu fais descendre du 7 au 6. Après, il y aura un autre qui fera descendre du 6 au 10 au 5, etc. Et ça va descendre, jusqu'à Moïse. Et Moïse, lui, avec le peuple juif,
zéro.
Il fera descendre du 1 au 0, et là, ça sera Mashiach. Et là, ça sera Mashiach.
Attendez.
C'est ce que Dieu a annoncé à Abraham. Dieu a annoncé à Abraham, il dit, voilà ce qui va se passer. Dans le plan de Dieu, c'est ce qui allait se passer. Dans le plan initial d'Akadosh Baruch Hu, ce qui allait se passer, c'est que normalement, quand on sort d'Égypte, on est clean, on est esclave. On est esclave physiquement, mais dans la tête, on est clean, on est propre.
C'est la peau du Baudin.
Et donc, non, c'est après la peau du Baudin. Et donc, comme on est clean, on sort, et là, c'est Mashiach. C'est fini, la Shrina revient sur Terre. Le problème qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ça ne s'est pas passé comme prévu.
Au moment qu'ils sont sortis d'Égypte.
Ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans les quelques générations qu'il y a eu avant la sortie d'Égypte, malheureusement, les Juifs sont devenus idolâtres.
En Égypte.
Et donc, le plan ne se passait pas comme prévu. La Shrina ne pouvait pas redescendre sur Terre. Moïse, c'est bien beau ce qu'il est Moïse, mais il faut un peuple derrière. Le peuple n'était pas prêt.
C'est évident que...
Deux secondes. Enfin, il faut aller jusqu'au bout. Donc le problème, c'est quoi? C'est que même si Dieu s'est engagé à Abraham Avinu de nous faire sortir, c'est pas il s'est engagé, il a annoncé qu'il allait nous faire sortir au bout de 400 ans, c'est dans le cas où tout se passe comme prévu. Parce que le but de la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte pour la Géoula. Bon, la Géoula finale.
Mais tu parles de Dieu, là, t'es au courant.
Bien sûr, je parle de Dieu. Mais oui, bien sûr, c'est le libre arbitre.
Non, mais Dieu, il te dit c'est blanc, c'est vert, c'est vert.
Je comprends.
Il te dit Dieu... dans 400 ans, c'est vert, c'est vert.
Je comprends. Dieu a un plan. Dieu, il a un plan que Michael et Mendy, ils font des vidéos toutes les journées. C'est le plan de Dieu. Maintenant, est-ce que moi, je peux dire que j'ai suivi le plan de Dieu aujourd'hui à 100%? Non. Voilà, c'est tout. Il y a un plan, mais il m'a donné un libre arbitre. Donc, avec notre libre arbitre, malheureusement, la majorité du peuple juif était idolâtre. C'est la réalité. Donc du coup, au bout de 400 ans, il ne peut pas nous faire sortir. Plus que ça, il y avait un vrai problème, ce que dit le Ritva juste en dessous. Les Bnei Israël étaient, on le connaît, les Bnei Israël étaient enfoncés, immergés, que Dieu nous en préserve, dans les 49 portes de l'impureté. Et il y a un principe qui dit comme ça. Il y a 50 portes de l'impureté. La 50e porte, c'est le point de non-retour. Donc là, il y a un problème. C'est que Dieu dit, d'un côté, ils ne sont pas prêts. Donc, je peux pas les faire sortir. Parce que, je les fais sortir pourquoi? Ils sont pas prêts. Mais d'un autre côté,
pas bon. Rester comme ça,
si je les laisse comme ça, c'est mort. C'est fini. C'est mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais modifier le plan initial. Le plan initial que j'avais annoncé à Abraham, c'était que la sortie d'Égypte doit être la bonne. La finale. C'est ce que j'ai annoncé. Je vais modifier mon plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les faire sortir physiquement de la prison, même si mentalement et spirituellement ils sont pas prêts, c'est pas grave, en espérant qu'avec le temps, dans l'exil, ça fait 3300 ans que ça dure, moi je leur ouvre le conduit, et eux avec le temps, chaque jour ils vont sortir un peu plus de l'Égypte. Ils vont enlever un peu plus l'Égypte d'eux. C'est pour ça que comment on commence le CDR? On dit voici le pain de misère que nos parents ont mangé en terre d'Égypte. Ils ont pas mangé en Égypte. Mais on est en train de dire à l'enfant, qu'est-ce que tu crois? Tu crois parce qu'on est plus géographiquement en Égypte, on n'est plus en Égypte? On est encore en Égypte aujourd'hui. Alors on célèbre quoi? On célèbre le chesed d'Hachem, que bien qu'on ne soit pas prêt du tout, on n'était pas prêt à sortir, qu'est-ce que fait Hachem? Hachem dit, tu sais quoi? On va quand même les faire sortir comme si qu'ils étaient prêts.
On va commencer.
C'est pas grave, on simule. On les fait sortir. Vas-y, c'est les sortir. Sors, sortez. Et après, dans le coup, ils vont prendre goût, ils vont dire, bon allez, pourquoi pas, on va se lancer. Donc ça répond à la première question. Ça répond à toutes les questions en vérité. On va en prendre les questions. On prend question par question. Référence numéro 2. On a amené le premier texte de la Haggadah. On a dit, voici le pain de misère que nos parents ont mangé en terre d'Égypte. Pourquoi on dit, prends rappel qu'on dit qu'ils ont mangé dans le pays d'Égypte, prends on rappelle ça? Parce qu'on veut te dire, nous sommes encore en Égypte. Dans la tête, on est en Égypte. Même si on habite dans l'État d'Israël, on est en Égypte. Et c'est pour ça qu'on dit juste après, on dit, cette année, on est là. L'année prochaine en Israël. Cette année, on est encore esclave. C'est ce qu'on dit à l'enfant. On dit, ta question est bonne, mon fils. Ta question est bonne. On n'est pas vraiment sorti d'Égypte. Tu as raison, c'est une bonne question que tu poses. Et plus que ça, qu'est-ce qu'on dit? Reprenez la référence numéro 2. On dit, Ashata Avdin. Cette année, nous sommes esclaves. On est esclaves, mon fils. Tu as raison. Tes questions sont bonnes. Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi on n'est pas sorti? En vérité, on n'est pas vraiment sorti. Mon Dieu, il est tellement gentil avec nous qu'il nous dit, écoutez, tu sais quoi? Tu mérites pas le cadeau encore. Je le donne quand même. Ah, mais. C'est ce qu'on te dit. Il y a la sortie physique de l'Égypte. Il y a la sortie de l'assimilation. Mais où on est aujourd'hui? On est assimilé.
Non, mais on était en Égypte. C'est quoi l'Égypte pour nous? On était idolâtres.
Et je comprends.
Mais c'est quand même une preuve.
Pas du tout. Le problème number one de l'Égypte, c'est l'assimilation. Est-ce que le problème est réglé?
Non.
Il n'est pas réglé.
Pas du tout.
Du moment où on n'est plus idolâtres, on n'est plus assimilé.
Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Rasmé Chalon parlait comme ça. Il y a 613 000 ans, il n'y en a pas qu'une.
Mais quel rapport?
Quel rapport? On est assimilé.
Mais l'idolâtrie,
Mais à l'époque, il n'y avait pas 613 mitzvot. À l'époque, il n'y avait pas 613 mitzvot. À l'époque, il n'y avait qu'une mitzvah. C'était croire en Dieu. Mais ils étaient assimilés. C'est le problème. Le problème number one, c'est l'assimilation. Normalement, si tout s'était passé comme le plan divin.
Je comprends pas.
Non, deux secondes. Ouais. Si tout s'était passé comme le plan divin, normalement, lorsqu'on sort d'Égypte, on devrait être complètement dans la Torah, on baigne dans Dieu. C'était pas comme ça. Et Hachem, il est gentil, il a dit, vous savez quoi? Je vous fais sortir comme vous êtes, assimilé comme vous êtes. En espérant qu'avec le temps, petit à petit, d'année en année, de jour en jour, avec une bourse qui va monter et qui va descendre, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire, ça monte, ça descend. Si on prend la courbe depuis l'époque de la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, on verra que ça monte, ça descend. Dieu sait parfaitement ça. Seulement Dieu, il dit, pour moi, c'est pas une option de vous laisser en Égypte. Parce que sinon, vous sombrez là-bas, vous restez là-bas, c'est le point de non-retour. Donc, je vous fais sortir. Et avec ça, on comprend pourquoi, on dit que la matza et le pain, et bien sûr, c'est un pain qu'ils mangent en Égypte. C'est un pain d'Égypte. On est en Égypte. La France, c'est l'Égypte. Israël, c'est l'Égypte. Tout est l'Égypte. Ma chère n'est pas là. Avec ça, on comprend le deuxième paragraphe. Dans lequel on dit, avec ça on va répondre à ta question David, avec ça on va répondre au deuxième paragraphe. Qu'est-ce que le deuxième paragraphe? On dit, si Dieu ne nous avait pas fait sortir dans son extrême bonté, nous serions encore en Égypte aujourd'hui. Pourquoi on dit ça? Bien sûr, c'est vrai que Dieu s'est engagé sur 400 ans. Mais c'était à condition qu'on soit prêt de sortir. Pas un syndrome de Stockholm. Si le jour où tu veux sortir, tu dis je suis bien en Égypte, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec toi? Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu lui dit, c'est pas grave, je te prends comme tu es. Vas-y, sors. Dehors. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que dans la Haggadah, dans le deuxième paragraphe, référence numéro 3, on a remercié Hachem. On dit, Hachem ne devait rien. Il ne nous devait pas ça. Hachem, le plan initial, c'est de nous faire sortir. Si on mérite. Si on fait les choses comme le plan. Si on s'est présenté devant l'hélico, on est monté avec la corde, on est monté sur le toit, etc.
Mais à ce moment-là, on ne dit pas le plan. À l'Ech Lecha, on nous dit il y a 400 ans.
Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que pour comprendre l'Ech Lecha, il faut comprendre l'histoire du monde. C'est pour ça que j'ai pris l'histoire. Quand tu vois, il a enclenché la descente, tu comprends qu'il y avait un objectif. Non, on t'a dit, tu attendras l'hélicoptère en haut du toit. Maintenant, si tu n'attends pas l'hélicoptère en haut du toit, on va pas t'envoyer des forces spéciales dans ta chambre. Et on va pas t'enchaîner pour te prendre et te dire, viens quand même si tu veux pas venir. Ça n'existe pas, ça. On dit, baba, on monte sur le toit, t'es prêt, tant mieux, t'es pas prêt, il n'y aura personne. Hachem, il dit non. Hachem, il dit, je vais dans ta chambre. Dans ta cellule, je te mets des menottes, je te prends avec moi, je t'embarque dans l'hélicoptère. Après, on verra.
Chaud quand même.
Il te kidnappe.
Il te kidnappe, exactement. Il te dit, restez en Égypte, c'est pas une option. Je te mets dehors. Donc avec ça, on comprend. Prends remercier Akadosh Baruch Hu. Prends on dit Akadosh Baruch Hu. Et avec ça, on comprend aussi le Ve'archav. Dans la référence numéro 4. On dit maintenant à Kadosh Baruch Hu nous approche. Donc, on dit maintenant pour expliquer à l'enfant, ne crois pas que l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une histoire qui s'est passée il y a 3300 ans. Ve'archav, ça se passe maintenant. C'est encore en train de se passer. On est encore en train de sortir d'Égypte. C'est mon fils, sache que moi je sors d'Égypte, toi tu sors d'Égypte, papy est sorti d'Égypte, notre arrière-grand-père, on est tous en train de sortir d'Égypte. Ve'archav. Oui, ça change complètement notre façon de voir les choses. C'est plus une histoire qu'on raconte qui s'est passée. C'est une histoire, vous savez, ce qu'on appelle les histoires en formation. Ça veut dire, c'est une histoire que c'est toi qui annonces la suite de l'histoire. Comme à l'école, vous savez, à l'école, ils te racontent une histoire et ils te disent, continue l'histoire. Ben, la suite de l'histoire, c'est qui?
C'est toi.
C'est moi. Tu dis à ton fils, la suite de l'histoire, c'est toi. Tu vois? On a commencé à sortir, on sait pas trop si on est sorti, on n'est pas sorti. La suite de l'histoire, mon fils, c'est toi. Peut-être par toi, ma chérie reviendra. Peut-être par moi, ma chérie reviendra. C'est la chaise. C'est extraordinaire. Alors, avec ça, et donc ça, on le retrouve dans le fil conducteur de la Haggadah. Alors, avec ça, on comprend aussi pourquoi il y a des Rechaïm autour de la table. Bah oui, bien sûr. Si on était sorti à 100% d'Égypte, il n'y aurait plus de Rechaïm. Mais comme on est encore en Égypte, et bien en Égypte, malheureusement, il y a de tout. C'est pour ça, référence numéro 10. Cela explique pourquoi les mécréants et les épreuves subsistent encore, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas arrivé au but encore. Quand tu seras arrivé au but, tu auras plus de problème. Donc c'est pour ça. Ça répond à toutes les questions de l'enfant. Si mon fils, bien sûr qu'il y a des richesses autour de la table. Et ça explique pourquoi le Vehishe Amda. On va croire le Vehishe Amda. C'est quoi le Vehishe Amda? On a dit, on remercie Hachem, toutes les générations. Il y a tellement de gens qui veulent nous détruire. Et à Kadosh Baruch Hu, dans son extrême bonté, il nous sauve. On a posé une question. On a dit, mais c'est normal qu'il nous sauve. On est son peuple. Oui, mais je veux bien. C'est normal qu'ils nous sauvent si on se comporte comme il faut. Mais s'il y a des Rechaïm dans notre peuple, s'il y a une grande partie de Rechaïm, normalement tu devrais faire une sélection. Il dit, ceux-là je les sauve, ceux-là je ne les sauve pas. Et pourtant on voit à chaque fois dans l'histoire, en tout cas il y a des épreuves, mais en général dans l'histoire comment ça se passe, Dieu nous dit, écoute, quand je te dis que je vais sauver la terre d'Israël, je ne vais pas poser la question, est-ce qu'on est à Bnei Brak, ou est-ce qu'on est à Tel Aviv, ou est-ce qu'on est à Eilat, ou est-ce qu'on est à Haïfa, ou est-ce qu'on est à Ramat Gan, ou est-ce qu'on est à Kiryat Shmuel, ou est-ce qu'on est... Hachem dit, je vous sauve tous. C'est le Vehishe Amda. C'est quoi le Vehishe Amda? Pourquoi on dit que c'est un exploit que Dieu nous sauve, qu'on remercie Hachem? Parce que s'il n'y avait pas de Rechaïm, si c'est une situation idyllique, si c'est Mashiach, il n'y a rien à remercier, Mashiach est déjà là. Mashiach n'est pas là, on est en exil. Et il y a des Rechaïm. Et Dieu te dit, quand je viens vous sauver, je sauve tout le monde. Alors, ces ennemis, normalement, il n'y a pas de logique, et c'est extraordinaire. Parce que, lorsqu'un ennemi vient m'attaquer, imaginez un Ahmadinejad, ou un Arafat, ou un Hamas, un Marchemam douce, d'accord, qui vient m'attaquer. Il y a un jugement dans le ciel. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un être humain contre un être humain. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Dieu va dire, c'est quoi? Eh ben, on va faire tomber l'autre et on va faire gagner le juif. il y a des anges accusateurs qui vont dire, mais pourquoi tu fais gagner le juif? Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il a? Alors, si effectivement on se comporte comme il faut, alors ils vont dire, oui, regarde, il a fait ci, il a fait ça, il s'est comporté comme il faut. Mais si malheureusement, on est dans une situation dans laquelle la majorité du peuple juif ne mérite pas, ou pas assez, les anges accusateurs, ils ont raison. Ils disent, mais pourquoi tu le tues lui et lui tu le laisses en vie? Pourquoi tu fais ça? Vous savez qu'est-ce qu'il répond Hachem? Hachem, il répond, il dit, « Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. » Il dit, « Quand même, je les sauve, je les aide. » Comme il, dans la référence numéro 11, il y a un texte très fort, dans lequel, dans Malachi, c'est un prophète, « Ahavti etrem amar Hachem. »« Je vous aime, dit l'Éternel. »« Je vous aime. »« Allo, achesadu akonu Hachem. » Mais il dit, « Mais pourtant, Esav n'est-il pas le frère de Yaakov ?» Sous-entendu, « Pourquoi tu aimerais plus ?» Yaakov que Esav. Et pourtant, regardez, les mots sont très forts. Va'ohav et Yaakov, ve'et Esav seneti. Dieu y est, pourtant, j'aime Yaakov et Esav le déteste. Au-delà de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ça veut dire que même si les deux sont des cancres, d'accord, Esav, je ne le supporte pas, Yaakov, je le sauverai. C'est pour ça qu'on dit Vishamda. C'est ce qu'on dit à Vishamda. C'est un exploit que Dieu nous sauve, parce que Dieu ne nous doit rien. Et quand tu as une situation dans laquelle t'as un David contre un Mohamed, et que les deux sont aussi mécréants. Excusez-moi de l'image. D'accord? Dieu dit, pourquoi je vais sauver le David? Les anges, ils attaquent, pourquoi tu sauves le David plus que le Mohamed? Parle pas de toi.
Un David contre un Olivier. Oui.
D'accord? Non, mais tu comprends? Dieu dit, pourquoi je vais sauver? Pourquoi je vais l'un plus que l'autre? Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Akadosh, Baruch Hu, Matzilenu Miyadam. C'est ça la réponse qu'on a à l'enfant. On dit, mon fils, on n'est pas encore sorti à 100% d'Égypte, on est encore dedans. Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. Dieu nous sauve même si on mérite pas. Avec ça, on va comprendre le dernier.
Excuse-moi, pourquoi il aime pas Esav là?
C'est comme ça.
Parce que Esav, il est autant.
David. Lequel tu préfères entre les deux?
Ni l'un ni l'autre.
Non.
Tu as choisi. Hein?
Mauvais exemple, monsieur le rabbin.
Lequel tu préfères entre les deux?
Ni l'un ni l'autre.
Bah. Je préfère l'eau, voilà.
Hein? Alors, donne-moi, tiens.
Je préfère l'eau.
Pourquoi tu aimes l'eau et t'aimes pas le coca?
Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Tu m'aurais dit ça, la même question à 20 ans. Je te dis,
pourquoi tu aimes? Pourquoi tu aimes? Je t'ai pas dit pourquoi tu bois. Pourquoi tu aimes?
Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. C'est ce que mon corps il demande.
Ah, je te demande ce que tu aimes. Je sais pas ce que tu prends.
Ah, j'aime pas. C'est un besoin que le corps il a. C'est tout.
Non, qu'est-ce que tu aimes plus? Je demandais aimer. Pourquoi tu aimes plus? C'est compliqué. On peut pas définir ça. Je dis j'aime, c'est tout. Je rentre pas. J'ai des comptes à rendre à personne. J'aime le juif, c'est comme ça.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il est autant juif.
Oui, mais quand c'est tes enfants, t'aimes les deux.
C'est ce que dit, c'est exactement ta question et la question du prophète. Ouais. Le prophète dit, mais Esav est le frère de Yaakov.
Ben oui.
C'est ta question. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit pourtant, ben, j'aime Yaakov et Esav, je peux pas me le voir. C'est ça le Veïcham. Avec ça, on va comprendre dans le dernier paragraphe qu'on a dit, pourquoi dans la liste des Dayenu, on dit, comment on appelle le Beit HaMikdash? Beit HaBechira, la maison d'élection, la maison choisie. Pourquoi on appelle la maison d'élection? Pour justement faire ressortir ce point. Que le Beit HaMikdash représente le fait que Dieu nous a choisi. Pourquoi il nous a choisi? Pas parce qu'on est les meilleurs. Parce qu'il nous a choisi, c'est tout. Et c'est ça le message qu'on dit à l'enfant. On dit, mon fils, sache que Dieu, il t'a choisi. Il y a un sélectionneur, comment on appelle, un entraîneur, tu vois, il t'a choisi. Il t'a pas choisi parce que t'es le meilleur. Parce qu'il y a peut-être un autre qui est meilleur que toi, c'est possible. Mais Dieu te dit, peu importe que, s'il joue mieux ou joue pas bien, moi je le choisis toujours lui. Beit HaBechira. Cependant, on précise, les rappeurs là nous, alcool à volonté nous. On rappelle, on dit qu'on est à un niveau dans lequel les fautes ne prennent plus de place. À cause de, je regarde pas les fautes, pas les fautes, je sais quand même. Et ça, ça nous permet d'avoir une vision complètement nouvelle sur la sortie d'Égypte. Parce que quelque part, finalement, est-ce qu'on est, ça veut dire la question est comme ça. Est-ce qu'on est sorti entièrement d'Égypte aujourd'hui?
Non, apparemment non.
On n'est pas sorti d'Égypte. Non. Bien sûr, et c'est la réalité. Il suffit de reprendre le regard d'un enfant et vous allez voir qu'on n'est pas sorti à 100% d'Égypte. C'est la réalité. Alors quoi, pourquoi on fait un grand bruit? Pourquoi on fait un gros bruit de Pessah? Qu'est-ce qu'on va faire des ménages, des cédères, etc.? Parce qu'on est en train de te dire que la force de Pessah, le message de Pessah, c'est que Dieu il te dit, tu ne méritais pas cette sortie et je t'aime quand même et je t'ai fait sortir. Et je te fais confiance. Et même si j'ai pas de quoi te faire confiance parce que ça fait 3 ans que tu traînes, et que je sais pas quand ça changera, d'accord? Et qu'à un moment on dira à Dieu, écoute, laisse tomber, ça changera pas, et il dira, bon, je vous fais sortir, d'accord? Eh ben, à Kadosh Baruch Hu, tu dis, je me pose pas la question de ce que tu mérites pas. Je me dis que tu es mon fils, je te fais sortir. Et c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah commémore et elle rappelle cet amour constant qu'a Kadosh Baruch Hu envers nous. Ça, ce que je viens de dire, ça a répondu à toutes les questions. Et ça, c'est le fil conducteur de la Haggadah. Le message que je vais dire à mon fils le soir du CDR, le message que chacun de nous va dire à son fils, qu'on va montrer par des. Mais il le voit mieux que moi.
mais
il voit mieux que moi qu'on est en Égypte.
C'est abstrait pour lui.
Pas du tout.
Lui, il est libre, il a tout ce qu'il veut.
Mais pas du tout. L'enfant, il sait très bien ce que c'est. L'enfant, il comprend très bien qu'il y a un problème. Il comprend très bien qu'on vit une situation qui est pas normale. L'enfant, il sait très bien ce que c'est sortir dehors et qu'on lui dit sale juif. Il sait ce que c'est. Il dit, je comprends pas. Sale juif, c'est en Égypte. C'est pas quand on est sorti d'Égypte. Alors tu dis, on va faire l'Alia. On fait l'Alia et il a peur de se prendre un couteau. L'enfant, il dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? L'enfant, tu peux pas le tourner autour du pot. Tu peux dire, tu comprends, là-bas, il y a ci, là-bas, il y a ça. Il dit, attends.
C'est pareil.
Tu nous as fait de languir la guéoule.
Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ce que dit l'enfant. Qu'est-ce qu'on répond à l'enfant? On répond à l'enfant, on lui dit la chose suivante. On lui dit, Hachem, il t'a fait confiance. Hachem, il t'a fait sortir. Hachem, il t'a fait sortir. Même si tu ne méritais pas. Même s'il n'a pas de quoi te faire confiance. Pourquoi Hachem, il t'a fait sortir? Parce que Hachem, il t'aime. C'est tout. Hachem, il t'aime. Il t'a fait sortir. Et ça, c'est le message de Pessah. Et ça, ça répond à toutes les questions qu'on a posées. C'est le pain de misère, parce qu'on est encore dans la misère. Il y a des pauvres autour de la table. Il y a un rachat autour de la table. On est en galoute encore. On est en plein galoute. Et même si on est en Israël, on est en plein galoute. On est en galoute. Et c'est pour ça qu'il y a des pauvres autour de la table. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est installé en Égypte. Et c'est pour ça qu'on rappelle le bienfait d'Hachem, que sans ça, nous ne serons pas sortis. Et c'est pour ça qu'on dit que maintenant, Be'erchav, ça se passe maintenant. Maintenant, now. C'est en train de se... L'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une histoire qui s'est passée 3300 ans et qui se passe maintenant. Une histoire qui est en formation, qui est toujours en train de tourner. Ve'erchav. Et on rappelle que le fait que Ve'ishamda, que Hachem en vérité, si moi j'étais à la place d'Hachem, excusez-moi de parler comme ça, je me dis, écoute, ça fait 3300 ans qu'ils bottent en touche, qu'ils n'arrêtent pas de changer, ça ne va pas changer. D'accord? Et Hachem tous les jours dit, tu sais quoi, peut-être aujourd'hui ils vont réussir. Peut-être aujourd'hui, je les aime, c'est pas grave, c'est mon fils, c'est bon, on y va. C'est bon, mon fils, t'inquiète pas, c'est bon. C'est ça le Ve'isham da. On dit, mais je comprends pas, pourquoi tu vas sauver? Si t'as une assemblée de Rechaïm, t'as des Rechaïm, qui sauve les Tzadikim, c'est normal? Mais d'un côté t'as un fauteur juif, d'un autre côté un fauteur goy. Pourquoi il fait tomber le fauteur goy devant le fauteur juif? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah, c'est le chidouche de Pessah. Le chidouche de Pessah, c'est qu'Hachem dit à Pessah, il dit, je vous ai choisi, même si c'est pas selon le plan. Jusqu'à Abraham, tout devait être selon le plan. Il y avait un plan. Il y avait un programme. C'est pour ça que l'histoire du peuple juif ne commence pas à Abraham. Parce qu'Abraham, il y a un plan. Donc, la question se pose, qu'est-ce qui se passe lorsque le plan n'est pas respecté? Est-ce que Dieu va quand même dire, c'est quoi? Même s'il n'y a pas le plan n'est pas respecté, je vous fais sortir quand même. Ça, c'est le chidouche de sortie. Dieu dit, le plan n'est pas respecté. Vous êtes à côté de la plaque. Ça fait 3300 ans. On avance à pas de fourmis. D'accord? On n'est pas avancé. Très peu. Mais Hachem dit, c'est pas grave. On est encore en train de sortir. On sort. Je vous fais confiance. Ça, c'est le chidouche de la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle on est Bessimra, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait confiance, Akadosh Baruch Hu nous aide, Akadosh Baruch Hu nous aime. Et c'est la raison pour laquelle on est Bessimra, et c'est comme ça qu'on va à Bezrat Hashem célébrer la fête de Pessah, dire que Dieu nous a choisis et Dieu nous aime. Ça, je pense, c'est une idée. Moi, c'est un commentaire très très important que j'ai appris il y a quelques années, qui m'a changé complètement ma façon de voir la Agada. D'habitude, c'est-à-dire jusqu'à un moment où j'ai appris ce commentaire, quand je disais la Agada pour moi, c'était une... On raconte ce qui s'est passé. Maintenant, tu racontes une histoire à un enfant, tu disais, mon fils, il avait 3300 ans, il avait une fois. Il dit, depuis papa, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, il va dire, papa, il m'a raconté l'histoire de la création du monde, il m'a raconté aussi l'histoire de 3300 ans, et demain, il racontera Retour vers le futur, et demain, il racontera. Non, là, c'est un autre message que tu dis à ton fils. Le message que tu dis à ton fils, c'est Ve'erchav. Tu lui dis, mon fils, ça se passe maintenant. C'est en train de se passer. Ce qu'ils ont vécu, on le vit maintenant. Et c'est en train d'évoluer progressivement. On avance. Quoi? Pour te dire, mon fils, que tes interrogations sont légitimes. Pour que tes interrogations sont légitimes et qu'on est dans le chemin. Et que l'angle se dérode. D'accord? La route est longue. Et qu'on avance.
Donc je vais répondre aux questions, la même chose en fait.
Vas-y.
On est encore en Égypte. Cette question que tu as posée, je vais répondre.
Non, c'est ça le chidouche d'Hachem. C'est qu'Hachem, il te dit, bien que dans ta tête, tu es encore en Égypte, je vais te faire sortir d'Égypte, et après, je vais te donner le temps. S'il faut, ça prendra 3300 ans. Pour que tu arrives à faire sortir l'Égypte de ta tête.
Bon, alors ça va, non, si Dieu veut, Mashiach qui va arriver, voilà. le 25,
c'est hein?
ça, on le 25 qui va venir,
c'est si Dieu veut,
Mashiach. Juste après.
Quoi?
On ne connaît rien d'autre à parler.
Même histoire, c'est ça la même histoire.
C'est vrai, on peut changer de pays un peu. On ne connaît rien d'autre à parler. Hein? On connaît rien d'autre à part l'Égypte.
Mais encore une fois, le concept de l'Égypte, ce qui nous intéresse, c'est pas l'Égypte, le Caire. Quand on parle de l'Égypte,
moi je parle de l'assimilation, je parle pas de l'Égypte, je parle de Barcelone. Tu m'emmènes n'importe quel pays, je m'en fiche.
Voilà, ça le problème de l'assimilation, il n'est pas réglé, il n'a jamais été réglé.
Mais est-ce qu'on connaît autre chose?
On était à deux doigts de le régler quand on était au don de la Torah. Après on est retombé. Après on a eu le premier temple, on est retombé. Le problème n'est pas réglé. Un problème il est réglé lorsqu'il se reproduit plus.
Ça c'est vrai.
Mais on est d'accord. C'est pour ça que ça marche dans la société. C'est quand t'as un problème, même si tu l'as réglé un petit peu, mais s'il est revenu, c'est que tu l'as pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Mais il est en cours d'être réglé. Parce qu'on a fait beaucoup de recherche et développement, d'accord? On a fait des essais, ça n'a pas marché, on revient, on réessaye, on fait pas les mêmes gaffes, ça avance. Et Hachem nous fait confiance. Hachem, il aurait pu nous laisser en plein pour dire, écoutez, laissez tomber, avec vous c'est mort, on fera un autre, non? Hachem, je vous fais confiance, prenez le temps.
Ce qui est marrant, c'est que dans toutes les commémorations, on se déplace, on gère là où on est parti, il s'est passé la chose. En Égypte, on n'y va plus. On ne va pas poser une gère.
Il n'y a plus d'étincelles.
Oui, parce qu'encore une fois, le chidouche du cours d'aujourd'hui, c'est qu'il faut aller au-delà de la notion géographique de l'Égypte. On parle plus, c'est-à-dire, effectivement, la terre de l'Égypte, on retourne pour, etc. Mais je parle pas de la terre géographique. Là, je parle du concept de l'Égypte. Ça, le concept de l'Égypte, on est en plein dedans. L'Égypte, si vous voulez, à l'époque, c'était l'équivalent de les États-Unis d'aujourd'hui. Non, mais c'est ça l'assimilation. C'est l'assimilation dans le grand monde. On est en plein dedans aujourd'hui. Et si vous reprenez toute l'histoire du peuple juif depuis sa création, c'est une bourse constante qui n'a pas de montée et descente. Assimilation, retour, mais jamais retour complet. Jamais.
Quoi qu'il arrive, on est obligé de s'assimiler. Après, on essaie de garder nos coutumes, nos minagues, ainsi de suite.
Oui, mais
on s'assimile.
D'abord, on n'est obligé de rien du tout, et Dieu n'est pas obligé de nous sauver. À un moment, il va dire écoutez les amis.
Nous, en tant qu'êtres humains, en tant que personnes.
C'est comme dans les jeux, your time is out. C'est fini. T'as une vie, deux vies, après c'est fini. T'as des vies, tu sais.
Mais après, il y a des codes pour.
Quand on dévie, il n'y a plus de vie.
Mais nous, on est immortels, nous. Attends, on est immortels, on meurt pas.
Ça, c'est le chidouche de la sortie d'Égypte. C'est que bien que ce soit illogique, on est immortel.
Ah oui.
C'est ça la réponse à l'enfant.
C'est pas illogique.
C'est illogique.
On est son peuple. Et
oui, mais on est son peuple, si on se compare comme son peuple. Il avait un plan. N'oublions pas le texte, n'oublions pas le message de la base. C'est qu'il y avait un plan. On devait respecter le plan. On n'a pas respecté le plan.
Mais t'es gentil, t'as un plan.
Mais on n'a pas respecté le plan.
Ils ont tous les plaisirs.
Donc si t'as pas respecté le plan est mort. La start-up est mort, on fait une autre. C'est tout.
On va faire une autre.
Parce
qu'il y a marqué Bereshit.
D'accord, on en fait une autre. Seulement Hachem dit non.
Quoi?
Hachem dit c'est pas Bereshit. Hachem dit je les aime.
En Égypte, c'est pas du ton que tu mets sur la table.
C'est quoi?
C'est ma start-up celle-là. Elle marche pas, mais je l'aime.
Bah oui.
Elle va marcher.
D'accord, ça y est.
Bon,
ça va. C'est bon. C'est bon.